Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission Autour du Livre. Une émission qui donne la parole aux écrivains, éditeurs, organisateurs de salons du livre, lecteurs et toute personne s'intéressant au livre, à la lecture. Dans cette émission donc de ce mois de juin 2019, je vous invite à faire un petit tour avec moi sur un salon du livre qui s'est produit sur Orange le 10, 11 et 12 mai. C'est le 12e festival du livre, donc qui s'intitule L'Antre des livres, un festival d'éditeurs indépendants avec leurs auteurs. Donc un 12e festival avec, pour cette année 2019, une demi-journée supplémentaire, donc pour les écoles du CM2 à la terminale. Ce vendredi 10, beaucoup de monde sur ce salon. Plusieurs écoles étaient au rendez-vous. Ce vendredi, j'ai rencontré des éditrices, des auteurs, relieuses, ainsi que des organisateurs de ce salon, qui se trouvent entourés quand même d'une belle équipe, d'une trentaine de bénévoles. Donc de 16 à 78 ans. Voilà, une belle équipe. Dans cet après-midi de ce vendredi 10 mai, plusieurs interviews. Alors mon premier invité a été Dominique Lain. Dominique Lain qui nous rapporte un peu de son vécu avec les enfants cet après-midi-là, donc dans des ateliers lecture. Dominique Lain qui est écrivain, formateur, qui propose des ateliers d'écriture, qui est chargé de communication, à Élan Sud, une maison d'édition sur Orange, qui a pour responsable donc Corinne Niederhofer. Je vais laisser donc la parole à Dominique. Bon. Dominique Lain, bonjour.
Bonjour Annick.
Alors cette journée, cette première journée sur ce festival, 12e festival quand même, Orange.
Oui, tout à fait, Orange. C'est la 12e année et ceux qui nous connaissent savent qu'on n'aime pas s'endormir sur nos lauriers et on avait envie d'améliorer, d'agrandir et on a décidé donc cette année exceptionnellement d'ouvrir une demi-journée supplémentaire, donc le vendredi après-midi, bien sûr pour le public mais surtout pour les enfants, pour les élèves. Et l'idée c'était vraiment d'ouvrir au plus large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des enfants qui viennent de CE1 jusqu'aux premières terminales.
Oui.
Il y a les écoles de Notre-Dame, Martignan et du Castel. Il y a le collège Giono qui est venu et le lycée de l'Arc.
D'accord.
Donc le lycée de l'Arc qui participe au prix Première Chance à l'écriture, puisqu'il va y avoir cet après-midi la remise du prix Première Chance à l'écriture à Brigitte Dubicki qui a gagné avec son roman La Confusion des Temps. Mais c'est surtout l'idée que les enfants puissent toucher, regarder, comprendre, entendre, lire
rencontrer
par eux-mêmes
des auteurs, et
surtout que ça touche l'objet livre et comprenne à travers les rencontres avec les auteurs qui lisent des extraits. Il y a une relieuse qui leur fait faire un livre, il y a un typographe qui leur fait faire des petits dessins, des pages et après qui est relié justement avec la relieuse. Donc de voir tous les aspects du livre, le livre jeunesse, le dessin, le roman, les contes. Qu'ils voient que ça existe vraiment, et qu'il y a un monde, un univers entier du livre, et si sur ces 300 enfants, parce qu'il y a quand même 300 enfants qui viennent aujourd'hui, si sur ces 300, il y en a 1, 2, 3, 5, 10, rêvons, 20,
qui
après gagnent quelque chose, nous on aura gagné ça. On aura gagné.
Non, mais ça, c'est une très, très belle initiative.
L'école Martignan, d'ailleurs, à qui j'ai lu Le Nuage Blanc, un conte que j'ai écrit.
Ouais.
Et ils étaient là, après, on a parlé nuages. Et puis, leur enseignante leur a dit, alors, quel sentiment était là? Quelle couleur était là? Enfin, donc, il y a eu quelque chose de pédagogique derrière. Mais ils avaient les yeux qui étincelaient. Moi, je leur ai demandé, vous avez déjà vu des formes dans les nuages? Et ils étaient là, moi, c'était une carotte. Moi, c'était un chat. Moi, c'était un cheval indien. Bon, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de l'imagination. À faire travailler l'imaginaire à ce qu'ils s'impliquent dans le livre et qu'ils se rendent compte qu'un livre, derrière, il y a toute une aventure, il y a toute des sentiments, des couleurs, des mouvements, des formes, et il y a quelque chose, il y a une vie dans le livre, et c'est ça qu'on a envie de transmettre. C'est en lien avec la philosophie de ce salon qui existe quand même depuis 12 ans, et si on fait venir, si on appelle le salon d'édition indépendante, c'est parce qu'on invite des petites maisons d'édition, et ce sont des éditeurs, des gens qui ont un vrai projet, qui ont un charisme, qui ont choisi de se battre pour le livre jeunesse, pour la poésie, pour la science-fiction, peu importe, le roman, le beau livre, le polar. Donc il y a toute cette diversité de gens qui se sont engagés pour le livre avec leurs auteurs et leurs illustrateurs qui viennent nous voir. Et donc le pont avec les nouvelles générations qui arrivent pour leur dire, regardez ce qui vous attend. Mais fait avec des artisans, avec des gens qui aiment leur métier. C'est pas ça. Le côté industriel qui existe. Et c'est la réalité, mais l'idée, c'était vraiment de leur donner, j'ai envie de dire, le meilleur, le côté vivant, le côté à leur portée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rencontré des gens vus à la télé, mais ils ont rencontré des gens engagés et qui avaient quelque chose à transmettre, vraiment, qu'ils soient auteurs, illustrateurs, relieurs, éditeurs, et le tout en compagnie de bénévoles souriants, engagés aussi, enfin voilà, une très belle famille autour du livre, c'est le vendredi 10 mai, donc c'est aujourd'hui, c'est vraiment, c'est une belle histoire, ça piaille de partout, ça grouille, ça gesticule, le volume sonore est au moins à 120 décibels, mais qu'est-ce que c'est bon, parce que c'est la jeunesse qui est là et qui se régale.
Et j'ai fait un petit peu le tour aussi, Dominique, donc du salon, j'ai rencontré donc des éditeurs, j'ai rencontré aussi une maison d'édition jeunesse sur Velo, et donc Alexandra qui est éditrice, et qui a animé justement un atelier avec les enfants CM1, CM2. J'ai trouvé ça très très chouette, parce que c'est comment la naissance, elle part de la naissance du livre, et elle développe tout ça, et on voyait les enfants qui étaient là et qui ont vraiment participé. Je sais que j'ai pris des photos et j'ai vu... voilà, j'ai vu l'intérêt, quoi. Je pense que ça aussi, c'est hyper important, quoi, de donner envie, quoi, à l'enfant, de découvrir le livre, mais dans sa globalité, quoi. Hein. Là, on avait quelque chose de fort aussi.
Oui, et moi, ce que je me rends compte, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai lu un conte à des enfants de CE1, CE2. Il y a ceux qui ont, ceux de CM1, CM2, qui ont assisté, entre guillemets, à la naissance d'un livre. Il y a ceux qui ont fait les ateliers, qui m'ont montré leurs résultats. Il y a ceux qui ont écouté des enfants d'autres classes, etc., qui ont chacun vécu leur expérience. Et il y a un point commun, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que souvent, on oublie que... comment dire, un enfant, ça peut s'émerveiller et on peut lui ouvrir une porte vers quelque chose de riche, de beau, parce qu'il touche à l'imaginaire, il touche à la réflexion, il touche aussi à l'approfondissement de la réflexion, c'est-à-dire ne pas appréhender la vie comme un j'aime pas, mais d'appréhender la vie, les sentiments, les relations avec toute la nuance qu'on peut trouver dans le livre.
C'est ça.
Alors que ce soit depuis la petite enfance avec des contes ou des histoires dites pour enfants, ou plus tard avec des histoires qui évoluent en maturité d'écriture, on peut encore et à chaque fois surprendre les enfants et leur permettre d'ouvrir, d'élargir leur champ de réflexion. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est de toute éternité. Il est nécessaire que les enfants ne soient pas cantonnés à des choses, à du oui, du non, du blanc, du noir, du j'aime pas, mais toutes ces nuances, toute cette palette de sentiments, de réflexions, de regards sur le monde, et surtout d'apprendre. Tout à l'heure, quand j'avais les enfants et que je leur racontais cette histoire du nuage blanc, et après je leur ai demandé, alors, cette histoire, ah, il y avait les nuages et on a voyagé, on est parti dans le désert. Et d'un seul coup, quelques mots ont suffi pour que les enfants partent dans le désert et voyagent et prennent vie avec ce petit nuage qui n'arrive pas à pleuvoir. Ouais. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, que ce soit là où... émerveillé, tiens, mais qu'est-ce que c'est qu'un livre? Comment ça se construit un livre? Mais ah, y a tout ça derrière un livre. C'est-à-dire, c'est pas juste un truc qu'on ouvre, qu'on obtient comme une canette de soda dans un distributeur. C'est derrière, il y a des hommes, des femmes, des gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui dessinent, et des gens qui éditent. Enfin, il y a tous ces gens derrière. Avant qu'il arrive sur la table du lecteur, il y a eu toute une histoire avant. Et d'un seul coup, le livre a une vraie vie avant eux. Et après, il y a un plus grand respect. Et d'un seul coup, le livre devient quelque chose d'important. Et beaucoup de gens disent, oh, les enfants lisent plus, tablettes. Oui, c'est vrai.
Oui, aussi, mais
est-ce que c'est pas un petit peu à nous, les adultes, leur dire, si tu savais tout ce qu'il y a derrière un livre, tout ce qu'il y a derrière un roman, derrière un mot, derrière un dessin, derrière la vie d'un éditeur, même si tu, enfant, tu comprends pas ce que c'est encore qu'un éditeur, il y a, regarde tout ce qui se passe derrière. Et là, l'enfant, il est prêt à s'émerveiller. Il attend que ça, l'enfant.
Tout à fait.
L'enfant et même l'adulte. On attend quoi ? On attend d'être émerveillé, d'être surpris, d'apprendre, de grandir, de découvrir des choses qu'on ne savait pas. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le milieu du livre, à l'entre des livres à Orange.
C'est super. Donc, les ateliers qu'il y avait pour les enfants, donc un peu de tous les âges, à partir du CE1, c'était très diversifié. Il y avait, donc, tout à l'heure, vous disiez de la reliure.
Ah, il y avait même, on a notre amie, une bénévole, qui est Christine Matos, qui est metteur en scène et écrivain de théâtre. Ah. Donc, qui a, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais je la connais assez pour savoir que ça a dû être quelque chose de vivant. Donc, elle a fait vivre les mots aux enfants avec leur corps, puisqu'elle est dans la scène, dans le théâtre. Ouais. Donc, d'un seul coup, donner une autre vision du mot. C'est-à-dire que leur faire découvrir que le mot,
il est vivant.
Il est vivant, voilà.
Il bouge, il est animé.
Il a une âme, il a une
c'est
vie.
C'est ça.
Et c'est-à-dire à sa manière de les surprendre et de les embarquer. Ouais. Je crois que le mot fort de... comment dire, de ce salon, c'est l'engagement, le charisme des gens qui l'animent, quel qu'ils soient organisateurs, bénévoles ou autres, c'est que chacun à sa façon a envie de partager cette passion, et on est tous là, on attend tous la passion, on attend tous du plus jeune, CE1, CE2, voire plus jeune jusqu'à pas d'âge, mais on a envie d'être embarqué. Et c'est vrai que tous ces ateliers, ils se sont construits, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour parce que coordonner 300 élèves pendant 2 heures, ça paraît rien, mais que c'est vrai que c'est un sacré boulot, mais quel plaisir d'entendre grouiller cette ruche et de voir les sourires se dessiner, de voir les gamins aller d'un stand à l'autre parce qu'il y a un quiz, qui a écrit ce livre, quel animal sur ce stand, quel animal est représenté sur la couverture, ou peu importe, quelle est la longueur du pont du Gard, parce qu'il y a un livre sur le pont du Gard. Enfin voilà, on a pris les livres qui existaient, qui étaient présents sur les stands, et on a posé des questions aux enfants pour qu'ils aillent partout. Ils ont regardé des romans, ils ont regardé des livres d'images, des livres de terroir, des livres de culture, enfin toutes sortes de choses. Et on les voyait grouiller d'un stand à l'autre, et c'était vraiment une ruche pendant 2 heures. Et ça fait du bien.
Mais c'est ce que j'ai vu aussi. À un moment donné, j'ai vu les enfants bouger d'une certaine façon. On dirait un essaim d'abeilles qui déambule, parce que bon, il y en avait plusieurs, quoi. Ben merci Dominique de permettre aussi à ces enfants de leur permettre de vivre ces instants qui, je pense, vont pas les laisser indifférents. Ça, j'en suis presque certaine.
Non, et je vais juste là. Moi, j'ai encore vécu une très belle expérience. Il se trouve qu'il y a 4 ans. J'ai rencontré des élèves de 6e SECPA au collège Giono. Donc ce sont des enfants un petit peu en difficulté, on va dire, et ils avaient étudié avec leur professeur un roman, Les Silences de Bosco, qui est pas forcément évident, mais qui traite d'une histoire d'un enfant et d'un autiste, son grand frère. Et 4 ans après, je les retrouve, je les ai pas vus entre-temps. Ils avaient le souvenir intact de cette rencontre d'il y a 4 ans, c'est-à-dire que dans leur vie d'enfant, on avait fait des lectures, un petit atelier. Alors, il y avait eu un accompagnement de l'enseignant, on est d'accord. Mais eux, ils étaient là, les yeux aussi grands ouverts qu'il y a 4 ans. Et il y a eu un échange encore, je leur ai lu quelques... Et il y a une des enfants qui m'a fait un cadeau énorme. Elle avait lu Les Silences de Bosco, elle me le sort. Et il était tout corné, tout mastégué, comme on dit ici. Il était et un peu déchiré.
Il a été lu, celui-là est relu.
Et elle l'a lu 5 fois.
Waouh.
Entre sa 6e et sa 3e, elle l'a lu 5 fois. Et elle venait avec l'air un peu bien timide me demander une dédicace.
Oh,
mais
mignon.
Si elle savait quel plaisir elle me faisait.
Oh, oui.
Mais au-delà de ça, c'est là où je me suis rendu compte quel impact on pouvait avoir sur un enfant. Nous, on passe, on propose. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un enfant qui cueille qui cueille ce qu'on lui propose. C'est-à-dire qu'il y a une graine et d'un seul coup, ça a poussé.
Aussi,
et on la retrouve 4 ans après. On les retrouve parce qu'ils étaient une petite dizaine là à la lecture que j'ai faite. Et ils étaient là. Ils étaient les yeux brillants. Ils buvaient les paroles. Alors c'est ça qu'on peut leur proposer. On fait le prix Première Chance à l'écriture, on travaille avec les lycéens, là on travaille plus techniquement sur l'analyse littéraire, mais on travaille avec on fait des lectures avec des enfants, avec de tous âges, on va même jusque dans les EHPAD faire des lectures aux gens de 95 ans.
Ah ouais.
Partager, ouvrir, oui,
c'est à aussi, où ça, dans quel
et bien à Orange aussi, à Domitis. J'ai mon club de fans qui attendent mes lectures régulièrement, à qui j'ai même lu le même con conte, le même conte que j'ai lu tout à l'heure aux enfants de CE1, CE2, je l'ai lu devant des personnes de 95 ans. Il y avait les mêmes étincelles dans les yeux, le même sourire. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est du bonheur de pouvoir partager les mots. Et je crois que, comme je disais tout à l'heure, les gens ont besoin, ont envie de vivre quelque chose, tant est qu'on les leur transmette avec la passion.
C'est ça la clé. Hein.
Je crois qu'on est assez passionnés ici, toute l'équipe d'Élan Sud et d'Expression littéraire universelle, pour prendre du temps, de donner, donner du temps pour transmettre, parce que on peut faire un constat d'échec si on veut. Oui, les gens ne lisent plus. Mais on peut aussi, et ça c'est l'autre option que je propose, on peut dire ok, les gens lisent moins. Et si moi, le petit colibri, j'allais pas leur donner envie de lire. Par ma passion, mon goût de lire. Avec des mots simples, hein, on va pas parler de procédés littéraires, on va pas parler d'effets proustiens ou de spirales rimbaldiennes. Hein, ça on peut si on veut. Hein. Mais c'est pas comme ça. C'est juste de leur parler de la musique des mots, de leur faire chanter quelques mots dans l'oreille, qui est du rythme et du sens. Et d'un seul coup,
d'aller plus loin, quoi.
C'est ça.
Dans le voyage,
Et on se rend compte de 6 à 90, 15, 16 ans, bientôt 100 ans, le même sourire, la même découverte, le même plaisir.
Merci Dominique.
C'est un plaisir. Je peux faire que me répéter, c'est un plaisir. C'est moi qui te remercie, Annie.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux. Tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être, être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro. Alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Pendant qu'être apprenait à lire, il faisait ses humanités. De son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir en liquidité. Pendant qu'être un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être en revanche et c'est notoire et bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe à faire, il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est toute intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur. Et sa noblesse est à ce prix. Un jour à force de chimère pour parvenir à un accord, entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être, parce qu'être c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir, pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables, en argusies alambiquées. Pour deux frères inséparables, ont pu être et avoir été. Et de palabres interminables, en argusies alambiquées. Nos deux frères inséparables, ont pu être et avoir été.
J'ai déambulé dans ce salon et j'ai rencontré aussi une relieuse, Anne-Lise Dellery, qui a bien voulu dire quelques mots au micro de notre radio. Il y avait des ateliers de typographie, donc avec Marc Granier, des ateliers lecture, des animations et des rencontres avec les auteurs. Un deuxième interview avec une maison d'édition belge, Lilis Édition, donc avec Émilie Malburny, une mère et son fils, auteur, éditeur, maison d'édition Marathon Édition. Donc c'est Thomas et Florence Gendre, Un petit tour d'horizon donc avec eux sur leur histoire et comment tout cela a commencé pour eux. Une éditrice, Patricia Ferté, et sa maison d'édition, Petra. Une rencontre aussi avec une autre éditrice, Musimo, donc la maison d'édition Musimo, avec donc Monique Lucchini, qui est avant tout, on va dire, poétesse. Et pour finir ces interviews, c'est avec Alexandra Chauvelon, donc du Grand Jardin, maison d'édition Grand Jardin, donc jeunesse, ado. Voilà, donc nous terminerons cette émission avec Alexandra Chauvelon. Alexandra, donc, qui a animé ce vendredi après-midi un atelier autour de la création d'un livre avec des enfants du CM2. J'espère que cette émission vous ravira de par sa diversité de personnes interviewées. Un rendez-vous à ne pas manquer en 2020, l'antre des livres à Orange. Alors vous êtes là en tant que...
Relieur d'art.
Oui.
J'expose mes livres au stand à côté. D'accord. Et là j'anime je fais des animations scolaires pour leur montrer ce que c'est de coudre un cahier ou de coudre son propre carnet. Voilà, c'est la base de la couture de tous les livres qui passent dans mon atelier.
D'accord. Votre prénom, votre nom ?
Annelise Dellery. Je fais l'extérieur des livres, je fais la reliure. Je fais soit les carnets vierges que les gens remplissent comme ils veulent.
Donc c'est les deux stands qu'il y a là ?
Non, c'est uniquement le stand qui est là, parce que le stand qui est de l'autre côté, c'est celui de mon collègue.
Alors bonjour, ici Mal Burnier-Émilie de Lilis Édition, une maison d'édition belge qui existe depuis 4 ans et demi. Alors nous éditons principalement de l'inclassable, du polar, du thriller. Nous avons une petite collection Génération Z pour les 9-12 ans, qui a la particularité d'avoir un auteur de 12 ans dedans. Donc c'est lui qui l'a inauguré. Et sinon, nous essayons de faire la promotion des auteurs belges. Nous avons 3 Français à notre catalogue. Nous espérons en avoir un petit peu plus par la suite. Mais pour le moment, on a 97% de Belges. En fait.
D'accord. C'est la première fois que vous venez au festival donc, du livre d'Orange ?
C'est la quatrième année.
Quatrième année,
on aime beaucoup. Ouais. Donc on espère revenir l'année prochaine. Ouais. Corinne, si tu m'entends, on veut revenir.
Elle va vous entendre.
Ce salon est vraiment quelque chose de chaleureux, qui a une ambiance différente de ce qu'on trouve en Belgique et dans les salons du livre. Et c'est pour ça qu'on aime bien revenir, parce qu'on a vraiment, on sent vraiment un engouement vraiment pour le livre qui parle les personnes de la localité et des alentours. Et donc ils n'ont pas du mal à venir découvrir, à venir nous découvrir surtout, et à venir nous redécouvrir, puisqu'ils reviennent maintenant pour nous aussi. Donc ça nous fait vraiment plaisir et on se sent accueillis. Donc du coup, voilà.
C'est super. Bon, merci à vous. Et écoutez, ce salon donc ne fait que commencer.
Oui.
Hein, nous sommes vendredi, donc il y a encore 2 jours. Vous espérez, vous avez des idées de comment tout ça va se passer?
Comme d'habitude, super bien. C'est comme d'habitude, ça va très très bien se passer. On n'a jamais eu de problème et donc je pense que ça va très très bien.
Du monde,
oui, il y aura beaucoup du monde. Chaque fois il y a du monde, chaque fois l'ambiance est géniale. On n'a rien à redire, donc on espère que ça sera encore mieux cette année.
Super.
Voilà.
Je vous le souhaite.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. L'aine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. Adieu. Marchands mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie. En librairie, si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris, mourir quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. La vie c'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit, un état dans les traité par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi.
Voilà, alors c'est une aventure à deux, donc une maman avec son fils. Vous avez créé ensemble 4 tomes d'une série.
Une trilogie et son intégrale.
Alors, bah, je vais donner la parole à Thomas. Thomas, tu as quel âge déjà?
Bah, maintenant, j'ai 17 ans, mais j'ai commencé à écrire avec ma mère quand j'en avais 12, donc il y a 5 ans. Tout a commencé par la lecture, je lisais beaucoup. Et ça m'a donné moi-même l'envie d'écrire. Et j'avais justement ma mère qui écrivait. Et donc je lui ai demandé. Et finalement, après quelques demandes, parce qu'elle refusait au départ, on a commencé. Chaque semaine, je lui racontais un chapitre. Elle l'écrivait pendant que j'étais au collège. Le soir, je relisais, je critiquais. Et comme ça, on a écrit toute notre trilogie. Et oui, c'est une aventure familiale. On ne penserait jamais que ça nous emmènerait aussi loin à la fin.
Oui, parce que en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur, parce que la maison d'édition Marathon, comment est-ce qu'elle est née?
Elle est née de ces livres, parce qu'après, une fois qu'on avait fini d'écrire le premier tome, on l'avait fait éditer par une petite maison d'édition, mais on n'en était pas entièrement satisfait, donc on a repris nos droits et là, je me suis posé la question, que faire? Est-ce que j'auto-édite nos livres ou est-ce que je crée une maison d'édition pour aussi publier d'autres auteurs? Et j'ai choisi cette seconde solution. Donc, j'ai suivi des formations auprès de la RLPACA, d'ailleurs. Et je me suis lancée. Donc, Marathon Édition a été créé. Donc, c'est une maison d'édition qui publie des livres pour ados et jeunes adultes. Donc, le registre dans lequel s'inscrivait le règne de l'empereur, la série qu'on a écrite avec Thomas.
Voilà. Donc, la série, c'est le règne de l'empereur?
Oui. Voilà. Avec le premier tome qui est le Skyraph. Donc, qui est une des créatures de ce monde imaginaire et c'est un loup ailé qui combat le mal.
Alors, Marathon Édition, donc, le siège est à Marseille?
C'est ça, oui, à Marseille. Oui. Et on a des auteurs de toute la France. Voilà.
Alors aujourd'hui, donc, enfin, ce salon d'Orange, est-ce que c'est la première fois que vous venez?
C'est la première fois, puisqu'on commence à avoir un catalogue conséquent, donc on est venu.
Alors vous, Florence aussi, vous êtes auteur?
Oui, avec Thomas, ensemble, oui. Écrire la trilogie m'a pris du temps, donc moi j'ai pas eu le temps d'écrire d'autres livres pour moi, on verra plus tard.
Oui, justement, c'était ça ma question, c'était est-ce que vous avez écrit, vous, de votre côté, d'autres ouvrages?
J'avais écrit auparavant,
surtout des petits livres ou des guides socioculturels, mais voilà, là, oui. Bah, j'ai été occupée.
Voilà, on peut pas être partout, à un moment donné, voilà, vous avez mis toute votre énergie sur ces ouvrages qui sont quand même assez conséquents, imposants. Hein.
Ah, bah, hein? Ça fait... Le tome 1 est le plus petit qui doit faire 230 pages.
Oui.
Et après, ils font plus 300 pages, oui, à peu près. Oui. Et l'intégrale fait bien 750 pages.
Oui. Donc, Marathon Édition sur Marseille. Donc, c'est Florence et Thomas
Gindre.
Voilà. Merci à vous. Merci.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Voilà, donc c'est plutôt des livres qui sont des témoignages. Donc par exemple, un des derniers parus, c'est Marie-Christine Navarro, qui est allée en Grèce rencontrer des réfugiés, des gens qui avaient été naufragés et des gens qui s'occupaient d'eux. Donc elle relate comment elle a pris contact avec eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu assez représentatif de ce qu'on fait.
Ouais.
Donc là c'est quelqu'un qui a vécu au Sénégal et qui raconte une exécution de quelqu'un qui avait essayé de tuer le président de la République, mais pas vraiment, c'était juste pour attirer son attention, vous voyez. Donc ça, donc ça c'est des contes et récits d'Ukraine. Là, c'est une collection sur les lancements d'alerte. Ça, c'est notre best-seller.
Ah.
Voilà. Alors qu'on pourrait penser que c'est un livre qu'ils n'ont pas beaucoup, mais au contraire, c'est notre best-seller. Là, c'est pareil, c'est un journal d'une tzigane bulgare. C'est son journal intime qu'on a traduit. Là, on a un livre sur les enseignants, quelqu'un qui a vécu la transition des IUFM au SP, donc avec tous les problèmes que ça a posé, parce que la réforme était mal conçue, etc. Mais vécu de l'intérieur, c'est toujours, on essaie toujours d'essayer de rendre compte comment les gens le vivent les choses.
D'accord.
Là, c'est quelqu'un qui a rencontré une personne qui était en train de préparer un film. Et en préparant le film, ils ont rencontré un Nigérian qui leur a dit qu'il cherchait sa sœur. Et en fait, cette sœur était prostituée. Elle avait épousé quelqu'un. Elle ne savait pas qu'elle avait épousé une personne qui était riche, mais elle ne savait pas qu'il était riche parce que c'était un proxénète. Et donc, ils partent à sa recherche pour essayer de la sauver.
De la sortir de
là. Voilà, de la sortir de là. Voilà, donc c'est des choses assez différenciées.
Vécu quand même, pas mal de...
Là, vous avez un archéologue qui raconte comment il est arrivé à l'archéologie, comment il a commencé à travailler sur les Gaulois, par exemple, qu'il ne connaissait pas du tout. Voilà.
Sociologie, politique aussi.
Oui, tout à fait.
Poésie aussi, j'ai vu.
Poésie, nous en avons pas mal...
Ouais.
Alors, vous avez par exemple le journal aussi, qui marche bien.
C'est
pas un vrai journal, mais c'est quelqu'un qui a consulté des journaux.
Oui.
Parce que quand il y a eu la grande famine en Irlande, il y a beaucoup de gens qui sont partis soit aux États-Unis, ça c'est assez connu, mais il y en a aussi beaucoup qui sont partis en Australie, qui étaient très pauvres. Les personnes étaient obligées de se louer avant de partir. Et quand elles arrivaient là-bas, si elles arrivaient, parce que c'était des voyages de 3-4 mois, il y avait des icebergs, il y avait des tempêtes, etc. Et puis c'était très dangereux quand on arrivait en Australie même, donc il y avait souvent des bateaux qui étaient naufragés. Mais sinon, quand ils arrivaient à s'en sortir, ils avaient tenu des journaux. Et après, il y a des bibliothèques en Australie qui conservent ces journaux. Donc elle s'est inspirée de ces journaux pour raconter l'histoire.
Je vois aussi que vous faites des livres pour enfants.
Oui, ça c'est plutôt les livres d'une amie qui est chercheur. Donc elle est allée en Antarctique pour essayer de comprendre comment... parce qu'il faut s'imaginer que c'est des îles, comme il n'y a pas d'êtres humains, c'est des îles où il y a des milliers de petits oiseaux, ou d'éléphants de mer, albatros, etc., qui se côtoient. Et donc elle a essayé de comprendre, faisant des enregistrements, comment au milieu de milliers de cris, les parents arrivaient à reconnaître leurs petits et vice-versa. Voilà. Et comme elle sait bien dessiner, elle a fait des dessins.
C'est elle aussi qui a fait l'illustration.
Elle a fait les dessins, elle a fait les textes en les faisant rimer pour faciliter la mémorisation. Et ça permet de comprendre le cycle d'une vie d'un oiseau. Mmh. Et en plus, elle a écrit le texte scientifique pour les parents, pour faire connaître.
Sinon, c'est un livre qui est pour quel âge
au niveau des... À partir de 3-4 ans, si on les raconte.
Ah oui, carrément, même, oui. 3-4 ans.
Oui, et puis jusqu'à 5-6 ans, parce que les textes ne sont pas très longs. Ça dépend de l'univers aussi qu'on a.
Oui, d'accord. Voilà. Et vous, Patricia, qu'est-ce que c'est qui vous a mené à l'édition ?
À l'édition, j'étais chercheur avant, dans une autre vie, en sciences humaines.
Ah oui.
Et donc, je regrettais beaucoup de voir qu'il y avait énormément de chercheurs qui n'arrivaient plus à se faire éditer. Et je regrette pas parce que ça
riche,
fait que s'amplifier, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de maisons d'édition maintenant qui publient des sciences humaines. Et donc voilà, et puis comme j'aime aussi la poésie, etc., donc le plaisir de découvrir des livres et puis essayer de les faire partager aux autres.
Voilà. Donc vous pouvez nous redonner le nom de votre maison d'édition ?
Oui, les éditions Petra.
Voilà, donc à Paris.
À Paris, on vient de Paris.
Le siège est à Paris. Voilà.
À Paris, dans le 20e.
Dans le 20e. Voilà. Merci Patricia.
Merci.
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour. Sans flambeau, j'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. Je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Il me semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas.
Monique Lucchini, donc votre maison d'édition, c'est Musimo. Alors Monique, vous êtes éditrice, mais vous n'êtes pas que éditrice, vous êtes aussi auteur.
Je suis auteur. C'est ma qualité d'auteur qui m'a fait devenir éditrice, en fait. Voilà. Pas simplement, mais il y a aussi... je suis quelqu'un qui vient du théâtre, du monde du théâtre. Et j'ai commencé par des spectacles musicaux, littéraires et musicaux. Et puis l'écriture d'un premier roman qui a été publié dans une petite maison d'édition à Paris. Et avec qui on n'avait pas la même vision du livre, enfin de l'objet livre en tout cas. Et donc ça m'a incité à créer une maison d'édition. Et j'ai eu la chance d'avoir tout de suite deux auteurs qui m'ont rejoint. Voilà, et maintenant on commence à être un bon grand nombre d'auteurs. Et
ouais. Depuis combien de temps
Eh bien, on va fêter nos 10 ans d'existence. Voilà. Voilà, donc l'aventure a commencé. J'aurais jamais. Enfin, au départ, on ne sait pas tellement où on va. Et puis, petit à petit, la ligne éditoriale se dessine.
Alors, justement, quelle est cette ligne éditoriale?
Alors, on publie essentiellement des textes poétiques. Enfin, c'est l'écriture poétique qui nous porte, poésie, prose poétique, la poésie en vers libre et uniquement, mais on a aussi quelques récits poétiques. Et puis on a une particularité, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec des artistes peintres, photographes, voilà, on essaye d'avoir une transversalité des arts. Et donc on a une collection où il y a un travail... De dialogue entre une écriture de poète et une création d'un peintre ou d'un photographe ou d'un sculpteur ou enfin, d'un artiste, avec une autre expression.
Ouais, voilà. Ça a le sens, hein.
En plus du travail qui est fait avec la musique, parce que nous faisons beaucoup de rencontres auteurs avec des lectures musicales.
Votre région, c'est...
Alors nous, on vient de la Haute-Loire. Ah. C'est un hasard, hein. Je suis installée en Haute-Loire. Je ne suis pas du tout originaire. Je suis plus du coin d'ici, parce que j'ai habité pendant plus de 20 ans dans le sud du Luberon.
Ah oui.
Voilà. D'accord. Et c'est, je pense, mon travail avec les foyers ruraux, avec le centre culturel de Cucuron, au niveau du théâtre, qui m'ont amené plus ou moins à...
Est-ce que vous avez un lieu précis
Non, on n'a pas de lieu précis. On fait pas beaucoup de lectures. Bon, on est en médiathèque, bien sûr.
Oui.
Médiathèque, dans des petits théâtres, quelquefois. Chez l'habitant, beaucoup.
Ah oui.
Ou dans des ateliers d'artistes, dans des galeries. Voilà, des lieux bien précis.
D'accord.
Alors, en privilégiant quand il y a un piano, puisque je travaille avec une pianiste. Je joue aussi d'autres instruments, donc on s'adapte.
Donc vous faites des lectures, c'est plutôt de la poésie en général.
Essentiellement, oui.
Et est-ce que parfois vous travaillez aussi avec les enseignants, les écoles?
Ben, ça nous est arrivé, mais au tout début, je crois qu'on n'avait pas encore monté la maison d'édition. Comme je vous disais, au début, on a commencé par des spectacles. Et moi, j'avais écrit à l'époque des textes pour enfants qu'on a mis en scène avec tout un travail sur les bruits, sur la musique également. Voilà, c'est le seul moment où on a pu travailler avec des enfants. Mais aujourd'hui, la maison d'édition s'adresse à un public d'adultes. Je crois que c'est très particulier, la littérature, et surtout en poésie, pour les enfants. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion, enfin, on ne s'est pas développé là-dessus.
Et vous sentez qu'il y a une évolution au niveau de...
Au niveau du travail éditorial?
Oui.
On commence à avoir des poètes reconnus qui nous proposent des textes. Donc il y a une évolution, toujours, de toute façon. On se remet en question tout le temps.
Oui, parce que j'entends souvent dire la poésie, c'est pas facile de faire. Il y a peut-être pas assez de lecteurs ou de personnes qui sont sensibilisées par la poésie, je sais pas. Donc je me dis que c'est peut-être plus difficile.
C'est très particulier, parce que je crois qu'on a, de ce qu'on voit dans les salons, quand on va dans des festivals, de poésie spécifique. On a notre
public.
Vous avez
le public, là. Voilà. Il n'y a pas de problème.
C'est un public qui est...
Tout à
fait. Parce que le public existe. C'est pas il est très sélectif, je pense. Après, l'objectif d'amener la poésie à tout un chacun, c'est une grande entreprise. C'est faisable. Je pense que on peut y arriver. Mais je pense que ça passe par l'oralité. Et puis, il faut détricoter tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, tout ce qu'on a... j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont un a priori sur la poésie parce qu'ils ne connaissent pas la poésie contemporaine en fait. Ils sont restés sur des standards de poésie, voilà, sur sur des alexandrins, sur... et ils se rendent pas compte que la poésie, elle est pourtant c'est Baudelaire qui avait commencé avec la poésie en prose, mais voilà, elle est là, elle est présente, elle peut être présente dans un même dans un roman, elle peut être présente. Il suffit de le mettre en avant et de l'entendre, de dire mais oui c'est abordable, c'est accessible, mais c'est un grand travail. Ouais, faut aller à la rencontre
notre,
des gens.
Oui, notre écoute aussi.
C'est pour ça que je pense que les lectures, la lecture à voix haute et notamment accompagnée musicalement, ça permet peut-être de à des passer, personnes de dire voilà d'écouter et de dire mais voilà ça je
Le ressentir peut-être autrement.
Le ressentir autrement. Oui. Parce qu'on n'est que sur de l'émotion. Essentiellement.
Et oui, c'est pas facile quand même hein, de faire passer ce message de la poésie, quoi. C'est du subtil. Hein. Je trouve que c'est un sacré challenge, quoi, quelque part. Hein.
Ouais. Je pense que tous les éditeurs de poésie aujourd'hui, les petites maisons d'édition, tout comme les nôtres, nous sommes des militants. Quoi. Nous sommes des passionnés.
Des convaincus,
des passionnés, des militants. Sinon, on ne ferait pas ce métier, je pense.
Bon, je crois que vous avez dit le mot de la fin, là. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, donc, Monique Lucchini. Merci.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suse ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se met à rêver d'un nouvel univers. Et toi, tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles. Pour les mendiants qui prient les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires, je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Oakland, de Cusco ou Montreux, 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale, avec autour du cou des cordes de piano et au poignet des clous pour taper le mambo. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil dans son plasma férique, dans les banlieues d'Hanoï, de Sfax ou de Munich, 6 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Mais toi tu cherches ailleurs les spasmes élémentaires qui traduisent nos pensées comme on traduit Homère. Et tu m'apprends les vers d'Anna Akhmatova pendant que je te joue Kedja l'harmonica. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil ivre de ses vieux ors dans les banlieues d'un Cordos, d'Oulan-Bator, 6 milliards de paumés levant la tête au ciel pour y chercher l'erreur dans un vol d'hirondelles. Mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arcs-en-ciel vibrants de sable mou, qui chantent des arias d'espoir universel pour faire que le soleil se lève sur nos emails. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil là-bas sur l'horizon, venant d'Héliopolis en jouant Hyperion, 6 milliards de groupies qui l'attendent hystérique dans le stade au jour J en brouillant la musique. Mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie, en attendant les heures plus fraîches de la nuit. Et tu me fais danser là-haut sur ta colline, dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Je t'aime et je te veux à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je te veux et le soleil se lève.
Alexandra Chauvelon. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexandra, vous venez de Velo. Vous avez créé une maison d'édition, Le Grand Jardin, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a 2 ans maintenant que la maison d'édition existe. Mmh. Et depuis, il y a... Donc c'est une maison d'édition jeunesse qui fait des albums. Et depuis, il y a 19 albums... 18 albums pardon, au catalogue, entre les projets qui sont déjà aboutis, qui sont déjà imprimés, et les autres, des fois, je mélange. Et dont certains ont gagné des grands prix nationaux, même comme le prix, la sélection des Incorruptibles, le prix Chronos de littérature et d'autres prix. Donc on est vraiment très touchés, très fiers et très honorés de cette reconnaissance de tout ce qu'on met dans les livres au niveau du message, au niveau de la qualité. Voilà.
Oui, et surtout au bout de 2 ans, vous avez déjà pu développer cette maison d'édition. Quoi, je veux dire, elle prend vraiment forme, quoi.
Oui, c'est dur d'être un petit éditeur dans le paysage actuel, parce que quand même la situation est quand même nettement dominée par les gros éditeurs qui produisent beaucoup. Il est difficile, et surtout dans le milieu donc de la diffusion, de la distribution, il est difficile pour une petite maison d'arriver à trouver sa place. Et c'est pour ça vraiment qu'on est vraiment honoré que les libraires, les jurys, les classes, etc. Nous aient apprécié les livres, et il y a plein de coups de cœur, de choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche, justement dans cette abondance, ce foisonnement de production, arriver à se faire un petit peu connaître, c'est quelque chose d'ardu.
Oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Alexandra, comment vous est venue cette envie de créer une maison d'édition ?
Alors vous savez... Ben, ça ressemble aussi à une belle histoire.
Ah.
Voilà. En fait, moi, tout mon parcours est universitaire, de formation. Il a été orienté autour de la langue française, puisqu'à la base, je suis linguiste. Bon, d'un autre côté, moi, je peignais et tout ça, donc un grand côté créatif. Puis j'ai travaillé dans la communication, dans le journalisme, et puis j'avais très envie, évidemment, de travailler dans l'édition, mais c'était un rêve très lointain. Quand j'étais dans la communication, à un moment donné, quand je cherchais du travail, j'avais envoyé des CV. Mmh. Et il y a un monsieur qui a fait passer mon CV à un autre monsieur. Cet autre monsieur l'a gardé dans ses tiroirs pendant 3 ans, avant de me rappeler quand c'était le bon moment pour lui.
Mmh.
Et c'est un vieux monsieur de l'édition qui possédait une très grande maison à Paris, qui a eu beaucoup de réussite, et qui m'a offert... Ben, je sais pas, il m'a tout appris du métier d'éditeur et il m'a offert une carte blanche ensuite pour créer une collection de livres jeunesse. C'était il y a un peu plus de 10 ans et c'était une très belle histoire.
C'est comme ça. Très émouvant, hein.
C'est comme ça que je suis arrivée dans l'édition, et effectivement, quand il m'a proposé ça, j'ai tout abandonné, tous les projets que j'avais en cours, puisque de toute façon, c'était un rêve, quoi. Moi, je me souviens
votre
encore.
Votre rêve était en train de se réaliser, quoi.
Mais oui, et c'était un rêve lointain. Je pensais jamais pouvoir l'obtenir, le réaliser un jour. Et voilà. Et ce vieux monsieur de l'édition m'a vraiment tout appris. Et voilà. Après, sa maison d'édition a fermé, parce que des histoires de très gros sous avec Paris, avec des très grosses maisons. Mais n'empêche qu'il m'avait donné toute cette formation, qu'ensuite d'autres maisons d'édition m'ont proposé de travailler pour elle. Et puis voilà. Et puis les hasards de la vie font que, et les accidents de la vie aussi font que, il y a un peu plus de 2 ans, et ben j'ai fini par monter ma maison d'édition, mais forte de toute cette connaissance et de cette expérience qui m'a vraiment été offerte par la vie. C'est une belle histoire aussi.
Un beau cadeau. À un moment donné, donc dans le salon, j'ai fait un petit peu le tour, et puis bon, je vous ai interpellé. Vous étiez en train d'animer un atelier donc sur la découverte de la naissance du livre, avec le retour maintenant. Là, il est 16h30, donc les enfants sont partis. Qu'est-ce que vous avez pu vivre à travers cet atelier avec les enfants ?
Alors, moi, j'ai proposé aux enfants, dans un temps assez bref, parce qu'on ne disposait pas de plus, de se mettre à la place d'un éditeur pour découvrir ce qu'est le travail d'un éditeur. Tous les choix qu'il implique, tout l'esprit critique, toutes les étapes finalement de réalisation d'un livre que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Depuis le choix des textes, le travail éventuel sur les textes, il y a de la direction artistique, il y a de la direction littéraire. On n'est pas juste un imprimeur, un éditeur, un véritable éditeur est vraiment quelqu'un qui intervient à tous les niveaux et qui est un chef d'orchestre finalement. Et plus qu'un chef d'orchestre, qui est obligé d'avoir un peu des compétences, enfin, comme un homme orchestre ou une femme orchestre, quelqu'un qui est obligé d'avoir toutes les compétences, en fait, des compétences littéraires, des compétences artistiques, des compétences commerciales, parce qu'après, mais il faut aussi le vendre. Donc ça, on l'a moins abordé avec les jeunes. Oui. Mais j'ai trouvé des jeunes vraiment pertinents, avec des personnalités qui se révèlent, certains qui sont créatifs, qui ont envie d'aller loin, comme ça, pour découvrir le travail de graphiste, de mettre en place des textes, des titres sur une couverture. Donc il y avait des choses vraiment très pertinentes. Chouette, c'est toujours un bonheur d'interpeller comme ça les enfants et de leur faire découvrir un univers qu'ils connaissent peu. Oui, il faut bien l'avouer.
Oui, parce qu'ils ont découvert, je pense, sur cette journée, les auteurs, la maison d'édition. Bon, je pense que pour eux, c'est un univers assez inconnu, quoi. Hein. Les enfants, quand ils viennent sur un salon, je pense pas qu'il y ait cette démarche-là. Là, c'est au niveau de l'école qui a eu tout ce travail en amont et qui a permis que ça puisse se développer de cette façon. Donc ces ateliers-là avaient un sens, je veux dire.
Tout à fait, d'autant plus qu'on est quand même dans une société de l'immédiateté. Je voyais, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, bon, une fois qu'on a choisi le texte, on l'imprime. Et en fait, voilà, dans cette société du tout va très vite, ils n'ont pas forcément conscience de toutes les étapes, de tout le temps nécessaire, de tous les intervenants nécessaires obtenir un livre imprimé. Tout de suite, ils veulent absolument que dès qu'on a le texte, éventuellement l'illustrateur, hop, on imprime. Mais on imprime quoi ? En fait, voilà, donc c'est tout ce travail de fourmis, de différents intervenants qui leur a été décomposé, un petit peu hein, quand même, et afin qu'ils puissent comprendre toute cette mesure du temps, puisqu'il faut environ 9 mois pour faire un livre, hein, c'est le minimum qu'on puisse faire.
Comme un bébé.
Effectivement, entre le moment où on a vraiment, c'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir entre le moment où on a l'idée, où on a le texte qui nous plaît, et le moment où il se retrouve en librairie.
Bon, moi, je suis arrivée en fin d'atelier aussi, et j'ai vu des enfants qui étaient complètement fascinés par en train d'écrire, en train de dessiner.
J'ai essayé, moi, de les ouvrir un petit peu plus loin, en fait, dans un univers un peu plus concret pour eux que simplement l'univers de l'édition. C'est-à-dire que je leur ai imprimé des couvertures vierges, c'est-à-dire sans le texte. Il y avait les illustrations, mais aucun texte. C'était à eux de retrouver le titre et de l'écrire avec l'auteur, de placer l'auteur, l'illustrateur. Donc, en fait, c'est tout un travail, finalement, de graphisme, de mise en page, en fait, de mise en page que je leur ai proposé de faire. D'accord. Parce que ça, très concrètement, ça va leur arriver très très vite parce qu'ils sont en CM2, en 6e, en 5e. Déjà, on nous propose de faire des travaux sur l'ordinateur pour les inciter à aller un petit peu plus loin dans leur choix de police, les inciter à réfléchir un peu l'emplacement des textes. Donc, par ce biais-là, j'ai essayé de les inciter à découvrir quelque chose qui va vite leur servir pour pas que ce soit trop loin d'eux.
J'imagine votre intervention dans des écoles, ça pourrait être quelque chose de chouette aussi.
Je serais ravie de pouvoir. J'ai déjà fait à Épinal ce genre d'intervention dans différentes classes, puisqu'on m'a dans le cadre du festival Zinc Grenadine. Et je serais ravie de le faire également dans des classes ici sur la région, bien sûr.
Oh, mais très bien. Ben, merci Alexandra. Merci.
Merci.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
C'était une rétrospective de l'Entre des Livres à Orange ce vendredi après-midi 10 mai. Bonne fin de soirée sur RTVFM 102.2.